Chapitre 19. Pendant ma campagne présidentielle, j'avais promis aux Américains de sortir de la politique étrangère que nous menions depuis le 11 septembre. L'Irak et l'Afghanistan m'ont démontré sans ménagement combien les choix du président se réduisent une fois la guerre commencée. J'étais déterminé à rectifier un certain état d'esprit qui avait régné sur l'administration Bush et largement contaminé Washington. Un état d'esprit qui voyait des menaces à tous les coins de rue, tirait une fierté perverse de son unilatéralisme et considérait l'action militaire comme une manière presque ordinaire de régler les situations géopolitiques. Dans nos interactions avec les autres nations, nous étions devenus irréfléchis et inflexibles, rétifs au travail lent et difficile qu'est la formation d'une coalition et d'un consensus. Nous nous étions fermés aux points de vue divergents. J'étais convaincu que la sécurité des États-Unis était indissociable d'un renforcement de nos alliances et des institutions internationales. Je préférais recourir à l'action militaire en dernier ressort et non en premier lieu. Il nous fallait sortir des guerres dans lesquelles nous étions engagés, mais plus généralement, je voulais aussi mettre à l'épreuve ma foi en la diplomatie. J'ai commencé par un changement de ton. Depuis le début de mon mandat, nous veillons à ce que toutes les déclarations de politique étrangère émanant de la Maison-Blanche mettent en avant la coopération internationale et l'intention des États-Unis de collaborer avec d'autres pays, grands et petits, en nous fondant sur un socle d'intérêt et de respect mutuel. Nous cherchions des manières, modestes mais symboliques, d'infléchir notre conduite, en augmentant le budget alloué aux relations internationales au sein du Département d'État, ou en remboursant les sommes dues par les États-Unis à l'ONU après plusieurs années pendant lesquelles l'administration Bush et le Congrès à majorité républicaine avaient différé certains paiements. Conformément à l'adage selon lequel la visibilité fait 80% du succès, nous avons également mis un point d'honneur à nous rendre dans les parties du monde négligées par Bush, dont la présidence était exclusivement concentrée sur le terrorisme et le Moyen-Orient. Pendant cette première année, Hillary a été un véritable tourbillon, bondissant d'un continent à l'autre avec la même énergie qu'elle avait naguère mise dans la course à la présidence. Devant l'enthousiasme que soulevaient ses visites dans les capitales étrangères, je sentais que j'avais fait le bon choix en la nommant à la tête de la diplomatie américaine. Elle était traitée en égale par les leaders du monde entier, mais ce n'était pas tout. Partout où elle allait, les gens voyaient dans sa présence le signe que nous nous intéressions réellement à eux. Nous ne pouvons pas forcer les autres pays à adopter nos priorités, ai-je un jour dit au Conseil de sécurité nationale. Il faut leur montrer que nous tenons compte de leur point de vue, ou au minimum, que nous sommes capables de les situer sur une carte. Exister, être entendu, avoir une identité propre, reconnue et jugée digne d'intérêt. Il me semblait que c'était un désir universel, aussi fort chez les nations et les peuples que chez les individus. Si je comprenais mieux cette vérité élémentaire que certains de mes prédécesseurs, c'était peut-être parce que j'avais passé une grande partie de mon enfance à l'étranger et que j'avais de la famille dans des endroits longtemps considérés comme arriérés et sous-développés. Ou peut-être parce que, étant afro-américain, je savais ce que cela signifiait d'être partiellement invisible dans son propre pays. Quoi qu'il en soit, je tenais à m'intéresser à l'histoire, à la culture et à la population des endroits que nous visitions. Ben me charriait en disant que les discours que je prononçais lors de mes déplacements pouvaient être ramenés à un simple algorithme. Salutations dans une langue étrangère, souvent mal prononcée. C'est un immense plaisir pour moi de me trouver dans ce magnifique pays qui a tant apporté à la civilisation mondiale. Liste de contributions. Nos deux pays sont liés par une amitié très ancienne. Anecdote édifiante. Et si les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est en partie grâce aux millions de fiers, américano quelque chose, dont les ancêtres sont venus peupler nos terres. Ça peut paraître un peu tarte, mais les sourires et les marques d'assentiment des auditoires étrangers attestaient leur sensibilité à ces marques élémentaires de reconnaissance. De la même façon, nous nous sommes efforcés d'inclure à chacun de mes déplacements des excursions touristiques très médiatisées qui me sortaient de l'enceinte des hôtels et des palais. Je savais que, en montrant mon intérêt pour la mosquée bleue d'Istanbul ou pour un restaurant typique d'Ho Chi Minh Ville, je marquerais davantage l'esprit des citoyens turcs ou vietnamiens que par une rencontre bilatérale ou une conférence de presse. Et, non moins important, ces étapes me donnaient l'occasion d'interagir un tant soit peu avec des gens ordinaires, et pas uniquement avec des hauts responsables et des élites fortunées qui, dans bien des pays, étaient jugées déconnectées de la réalité. Toutefois, c'est dans mon manuel de campagne que nous avons trouvé le plus efficace de nos outils diplomatiques. Il ne se passait plus un déplacement international sans que j'organise une rencontre publique avec des jeunes. La première fois, pendant le sommet de l'OTAN à Strasbourg, devant une assemblée de plus de 3000 étudiants européens, nous ne savions pas à quelle sauce nous allions être mangés. Allais-je être interrompu constamment? Allais-je les endormir avec mes longues réponses embrouillées? Mais après une heure durant laquelle, sans que rien soit préparé, les participants m'ont interrogé avec enthousiasme sur tous les sujets, du réchauffement climatique au terrorisme, tout en ajoutant quelques remarques personnelles plus légères, j'ai par exemple appris que « barak » signifie « pêche » en hongrois, nous avons décidé d'en faire un rendez-vous régulier. Ces rencontres étaient généralement diffusées en direct sur les chaînes nationales du pays, et que ce soit à Buenos Aires, Bombay ou Johannesburg, elles attiraient un public important. Dans de nombreuses régions du monde, voir un chef d'État se prêter sans filtre aux questions des citoyens était une nouveauté, et une apologie de la démocratie plus puissante que n'importe quelle cour magistrale. En concertation avec nos ambassades locales, nous invitions souvent de jeunes militants issus de groupes marginalisés dans le pays hôte, minorités ethniques ou religieuses, réfugiés, étudiants LGBTQ. En leur tendant un micro et en les laissant raconter leur histoire, je pouvais exposer à tout un pays la justesse de leurs revendications. Ces jeunes que je rencontrais étaient pour moi une source constante d'inspiration. Ils me faisaient rire et parfois fondre en larmes. Par leur idéalisme, ils me rappelaient les jeunes organisateurs et bénévoles qui m'avaient propulsé jusqu'à la présidence et ravivaient les liens qui nous unissent par-delà les différences ethniques et nationales dès que nous apprenons à laisser notre peur de côté. Même lorsque j'abordais ces rencontres dans un état d'énervement ou de découragement, j'en ressortais systématiquement dynamisé, comme après un bain dans la fraîcheur printanière d'une forêt. Aussi longtemps que des jeunes hommes et femmes comme ceux-là existeront aux quatre coins du monde, nous aurons de bonnes raisons d'espérer. Sur tous les continents, l'image des États-Unis s'améliorait depuis mon entrée en fonction, signe que notre effort diplomatique portait ses fruits. Conséquence de cette hausse de popularité, nos alliés se montraient moins réticents à maintenir, voire à augmenter leur contingent en Afghanistan, conscients que leur population se fiait à notre leadership. Cela nous donnait, à Tim Geithner et à moi, une plus grande marge de manœuvre pour coordonner la réponse internationale à la crise financière. Lorsque la Corée du Nord a commencé à tester ses missiles balistiques, Susan Rice a réussi à obtenir du Conseil de sécurité de l'ONU qu'il approuve de sévères sanctions internationales, non seulement grâce à son talent et à sa ténacité, mais aussi parce que, m'a-t-elle confié, de nombreux pays veulent montrer qu'ils s'alignent sur vous. Le charme diplomatique avait néanmoins ses limites. En dernier recours, la politique étrangère de chaque nation restait guidée par ses intérêts économiques propres, sa géographie, ses divisions ethniques et religieuses, ses conflits territoriaux, ses mythes fondateurs, ses traumatismes profonds, ses vieilles animosités, et surtout par les impératifs du groupe qui cherchait à se maintenir au pouvoir. Il était rare que des chefs d'État étrangers soient sensibles à la seule persuasion morale. Ceux qui étaient à la tête de régimes répressifs pouvaient plus ou moins se permettre de mépriser l'opinion publique. Si je voulais avancer sur les questions les plus délicates, j'allais devoir user d'une autre forme de diplomatie, faite de récompenses et de sanctions concrètes, et seule capable d'infléchir les calculs des dirigeants les plus durs. Et durant la première année de mon mandat, les interactions avec les chefs de trois États en particulier, l'Iran, la Russie et la Chine, m'ont très vite démontré que ce ne serait pas une partie de plaisir. L'Iran était celui des trois qui menaçait le moins les intérêts des États-Unis sur le long terme, mais il remportait la palme du plus activement hostile. Héritier des grands empires perses de l'Antiquité, épicentre des arts et des sciences à l'âge d'or de l'islam, l'Iran était longtemps resté sous les radars des décideurs américains. Bordé à l'ouest par la Turquie et l'Irak, à l'est par l'Afghanistan et le Pakistan, il était généralement considéré comme un pays moyen-oriental pauvre parmi tant d'autres, un territoire rongé par la guerre civile et la montée des puissances européennes. Mais en 1951, son parlement laïque et de gauche entreprit de nationaliser les champs de pétrole du pays, confisquant des recettes qui allaient jusque-là dans la poche du gouvernement britannique, actionnaire majoritaire de la plus grande société pétrolière d'Iran. Fâchés de s'être fait couper les vivres, les Britanniques imposèrent un blocus maritime afin d'empêcher l'Iran de livrer son pétrole aux acheteurs potentiels. Ils convainquirent en outre le gouvernement des États-Unis que le nouveau régime iranien nourrissait une certaine sympathie pour les soviétiques, ce qui incita le président Eisenhower à donner son feu vert à l'opération Ajax, un coup d'État organisé par la CIA et le MI6 qui destitua le premier ministre élu démocratiquement et renforça le pouvoir du jeune monarque du pays, le Shah Mohammad Reza Pahlavi. Avec l'opération Ajax, les États-Unis posèrent les bases d'une relation fautive avec les pays en développement qui domina toute la guerre froide. Nous avons pris des aspirations nationalistes pour des complots communistes, confondu intérêts commerciaux et sécurité nationale, saboté des gouvernements élus démocratiquement et pris le parti des autocrates chaque fois que nous y trouvions notre avantage. Toutefois, pendant les 27 premières années, les décideurs américains durent estimer que leur manœuvre iranienne était un succès. Le Shah devint un allié inconditionnel qui signa des contrats avec les sociétés pétrolières américaines et acheta quantité d'armements coûteux aux États-Unis. Il entretint des relations politiques avec Israël, accorda le droit de vote aux femmes, employa la richesse grandissante du pays à moderniser l'économie et le système éducatif, et s'entendait à merveille avec les hommes d'affaires occidentaux et les têtes couronnées européennes. Mais ce qui se voyait moins de l'extérieur, c'était la grogne suscitée par les dépenses extravagantes du Shah, sa répression impitoyable, sa police secrète avait la réputation de torturer et de tuer les opposants, et sa promotion des mœurs occidentales qui, aux yeux du clergé conservateur et de ses nombreux partisans, violaient les principes fondamentaux de l'islam. De même, les analystes de la CIA ne prêtèrent pas une grande attention à un certain Ayatollah Khomeini, un dignitaire chiite en exil au tempérament messianique et à l'influence croissante, qui dans ses écrits et ses discours accusait le Shah d'être la marionnette de l'Occident et appelait les fidèles à remplacer l'ordre existant par un État islamique gouverné par la charia. D'où la surprise des États-Unis quand, début 1978, une série de manifestations déboucha sur une véritable révolution populiste. Les partisans de Khomeini furent successivement rejoints dans les rues par les travailleurs mécontents, les jeunes sans emploi et les forces pro-démocratie prônant un retour à l'ordre constitutionnel. Au début de l'année suivante, alors que les manifestants se comptaient en millions, le Shah quitta discrètement le pays et fut brièvement accepté aux États-Unis pour y recevoir des soins médicaux. Tous les journaux télévisés du soir diffusèrent des images de l'ayatollah, barbe blanche et regard ardent de prophète, rentrant triomphalement de son exil, qui descendait d'un avion devant une foule en liesse. La majorité des Américains n'était pas au courant de la révolution qui se produisait et ne comprenait pas pourquoi la population d'un pays lointain se mettait soudainement à brûler des effigies de l'oncle Sam en scandant « mort aux États-Unis ». C'était d'ailleurs mon cas. J'avais alors 17 ans, j'étais au lycée et n'avais pas encore développé de conscience politique. Je n'ai compris que vaguement la suite des événements. Comment Khomeini s'attribua le titre de guide suprême en écartant ses anciens alliés laïcs et réformistes, comment il constitua le corps des gardiens de la révolution islamique, groupe paramilitaire ayant pour mission d'écraser les opposants au nouveau régime, et comment il profita de la crise des otages américains à Téhéran pour cimenter la révolution et humilier la première puissance mondiale. Trois décennies plus tard, les retombées de ces événements continuaient de façonner en profondeur le paysage politique et ma présidence. La révolution iranienne inspira une kyrielle de mouvements islamiques radicaux décidés à reproduire son succès. L'appel de Khomeini à renverser les monarchies arabes sunnites dressa l'Iran et la famille royale saoudienne l'un contre l'autre et creusa la division confessionnelle dans tout le Moyen-Orient. La tentative d'invasion de l'Iran par l'Irak en 1980 et les 8 années de guerre sanglante qui s'ensuivirent, guerre durant laquelle les États du Golfe finançaient Saddam Hussein tandis que la Russie équipait l'Iran en armes, notamment chimiques, poussèrent l'Iran à soutenir le terrorisme afin de compenser les avantages militaires de ses ennemis. Sous Reagan, les États-Unis essayèrent, non sans cynisme, de jouer sur les deux tableaux en prenant publiquement le parti de l'Irak, tout en vendant secrètement des armes à l'Iran. Lorsque Khomeini promit de rayer Israël de la carte, expliquant l'appui des gardiens de la révolution à des relais armés tels que le Hezbollah, milice chiite installée au Liban, et à la branche militaire du Hamas, le groupe de résistance palestinienne, le régime iranien devint la plus grande menace contre Israël et contribua à son raidissement face à l'idée d'une possible paix avec ses voisins. Plus généralement, la vision propagée par Khomeini d'un monde organisé selon un affrontement manichéen entre les forces d'Allah et celles du grand Satan, les États-Unis, contamina à la manière d'une toxine l'esprit des futurs djihadistes, mais aussi celui des Occidentaux déjà enclins aux soupçons et à la crainte vis-à-vis des musulmans. Khomeini mourut en 1989. Son successeur, l'ayatollah Ali Khamenei, un religieux qui n'était presque jamais sorti de son pays et n'en sortirait plus jamais, partageait manifestement la haine de Khomeini envers l'Amérique. Mais bien qu'il ait le titre de guide suprême, l'autorité de Khamenei n'était pas absolue. Il était obligé de composer avec un puissant conseil clérical, et la gouvernance quotidienne incombait à un président élu par le peuple. À un moment, vers la fin du mandat de Clinton et le début de celui de Bush, la montée en puissance de forces plus modérées sembla augurer d'un dégel dans les relations entre les États-Unis et l'Iran. Après le 11 septembre, le président Mohammad Khatami tendit même la main à l'administration Bush, en lui proposant d'aider l'Amérique à riposter contre l'Afghanistan voisin. Mais les dirigeants américains n'en tinrent pas compte, et lorsque dans son discours sur l'état de l'Union en 2002, le président Bush rangea l'Iran dans l'axe du mal aux côtés de l'Irak et de la Corée du Nord, la fenêtre diplomatique existante se referma brusquement.